Eh bien, bonsoir. Ce soir, on va continuer les cycles de conférences sur le cancer. Il y en a eu une la semaine dernière, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, déjà, je me trompe. Les cellules cancéreuses et leur environnement. Ce soir, on consacre cette séance aux cellules souches et au cancer. Vous aurez deux conférences. La deuxième conférence sera celle qui sera faite par M. Ali Turan, professeur en hématologie, donc qui viendra après moi. Et la première concerne les cellules souches et le cancer du cerveau. Alors, qui je suis ? Donc, je suis Valérie Corona, je suis maître de conférence en neurosciences à l'Université de Poitiers et je travaille au sein de l'Institut de physiologie et biologie cellulaire, qui est un laboratoire couplé entre l'université et le CNRS. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc la thématique de recherche sur laquelle je travaille actuellement concerne les cellules souches neurales, normales, et je vous montrerai quel est le lien de ces cellules souches avec les cancers du cerveau et cellules souches cancéreuses du cerveau. Alors, je vais m'asseoir. Et je vais continuer comme ça. Si vous avez des questions, vous me les posez. N'hésitez pas. Alors avant de vous parler du cancer du cerveau, je vais quand même vous toucher 2-3 mots du cerveau et montrer quelques aspects un peu particuliers et l'impact que peut avoir un cancer du coup sur cette structure. Donc le cerveau, c'est un organe un peu particulier puisqu'il est protégé par une boîte crânienne. Ce qui permet effectivement de limiter les atteintes du cerveau, le tissu lui-même. Il y a un certain nombre de structures entre, notamment les méninges. Méninges aussi qui sont un tissu qui permet de protéger le tissu cérébral sous-jacent. Et dans le cerveau, on a plusieurs structures. Structures qui servent, entre autres, à l'apprentissage, la mémoire, la conscience, la connaissance. Et puis on a des structures un petit peu plus bas, notamment le cervelet, dont je vous reparlerai plus tard. Cervelet qui intervient dans tout ce qui est contrôle de la motricité, équilibre. Et puis d'autres structures ici qui sont le tronc cérébral, qui ont des fonctions vitales, donc qui contrôlent la respiration, le cœur, le diamètre des vaisseaux. Alors pourquoi ce cerveau est un peu spécial quand on parle de cancer ? C'est parce qu'il est protégé par une boîte crânienne. Et il y a 15 jours, on vous a expliqué que quand il y a un cancer qui se crée, eh bien il y a une multiplication anormale de cellules. Donc imaginez cette structure dans laquelle il y a des cellules qui viennent de manière anormale. Eh bien, le tissu va pousser sur la boîte crânienne et ça va comprimer le cerveau. Ce qui n'est pas très très bon pour que nos réseaux neuronaux se maintiennent. Donc il y a une complexité par rapport à ça. La deuxième complexité dont je vous parlerai aussi un peu, mais plus vers la fin, c'est le fait que le cerveau n'est pas en relation directe avec le sang. Il y a une barrière entre sang et cerveau, et que du coup, il est difficile d'administrer des anticancéreux comme on peut le faire pour le sang. Sous réserve que mon collègue soit d'accord avec moi, mais je pense qu'il sera d'accord. Donc c'est cette autre difficulté-là qui va consister aussi à ce que je vais appeler traquer, donc aller à la chasse du cancer. Alors, pour les cancers du cerveau, je voudrais déjà vous dire de quoi je ne parlerai pas et de quoi je parle. Dans les cancers du cerveau, on peut considérer plusieurs choses. Il y a d'une part des cellules cancéreuses qui viennent s'installer dans le cerveau, qui viennent d'ailleurs, c'est ce qu'on vous a dit il y a 15 jours, par exemple. Il y a quelqu'un à un cancer du poumon et au bout d'un certain temps, ces cellules de cancer du poumon s'échappent de ce poumon et vont s'installer dans d'autres structures, dont par exemple le cerveau. C'est la même chose pour le cancer du sein. Il peut y avoir ce qu'on appelle donc des métastases, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer dans le cerveau. Ça pose quand même problème parce qu'on a une masse tumorale qui s'installe ici. Et ces cancers-là ne sont pas des cancers à proprement dire du cerveau, puisque ce n'est pas des cellules cancéreuses du cerveau, elles viennent d'ailleurs. Donc ça concerne en fait la majorité des tumeurs qu'il y a dans le cerveau, environ 2/3, 3/4. En fait, de celles-là, je ne vous en parlerai pas, puisque ce n'est pas un cancer du cerveau. C'est un cancer qui vient d'ailleurs et qui colonise le cerveau. Donc moi, de quoi je vais vous parler, c'est les tumeurs, les cancers qui viennent de cellules provenant du cerveau. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des tumeurs primitives. Ça représente à peu de choses près 4 000 personnes atteintes de ces tumeurs par an. Ça représente 20% des cancers de l'enfant, donc c'est dramatique. Enfin, les autres maladies aussi le sont, mais c'est quand même assez dramatique. Et ça représente un peu plus d'1% de tous les cancers diagnostiqués donc, en France. Alors voilà, ici sur des photos, enfin des images par IRM, donc imagerie médicale, ça là, cette masse, vous voyez que ça ne ressemble pas à ce qui est autour, ça c'est une tumeur du cerveau, ici. Donc ça fait une masse quand même qui vient s'ajouter, qui n'est pas négligeable, et qui va comprimer le tissu qui est à côté. Alors qu'est-ce qu'il y a comme cancer du cerveau? Il peut y avoir des cancers qui concernent les méninges, donc qui sont les enveloppes qui sont au-dessus du cerveau, ce sont les méningiomes. Ça représente 30% des cas. On dit que c'est bénin parce que, a priori, ça ne va pas aller s'infiltrer dans la structure. Il suffit, alors c'est vite dit, il suffit d'enlever la tumeur et le problème est réglé. Alors bénin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Parce que si votre méningiome est mal placé, on peut être amené, enfin on risque de toucher des structures importantes en enlevant cette tumeur et l'individu peut en avoir des séquelles, voire en décéder. Donc bénin, c'est pas... Mais a priori, c'est quand même moins terrible que d'autres cancers dont je vais vous parler. D'autres cancers, ce sont des cancers qui sont autour des nerfs, qui sont les neurinomes. Ces cancers-là ne sont pas en lien avec des cellules souches. Un des cancers qui est assez invasif et qui pose de graves problèmes, c'est le méduloblastome, qui est un cancer qui se fait au niveau du cervelet, donc cette structure dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sert à la motricité. C'est un cancer qu'on trouve fréquemment chez l'enfant, enfin dans le cas de cancer du cerveau, bien sûr. Donc ce méduloblastome, on pense qu'il est en lien avec des cellules souches du jeune enfant. Et puis, un tiers des cas de cancer, ce sont les gliomes. Alors, il y a différents grades de gliomes. Les gliomes, qui sont aux grades les plus bas, c'est-à-dire grade numéro 1, sont les gliomes les moins invasifs, les moins terribles, si je peux dire. Ils seraient quasiment bénins. Et on a des gliomes à qui on a mis des grades plus élevés. Numéro 4, c'est le plus dangereux. C'est une tumeur qu'on va qualifier de maligne, qu'on n'arrive pas à éradiquer. Alors juste pour vous dire, moi je vais me focaliser sur ces gliomes. Ces gliomes, on les trouve chez l'adulte, le jeune adulte souvent. C'est la tumeur la plus agressive du cerveau. Ce cancer concerne 2 à 3 personnes pour 100 000 habitants. On estime qu'il y a une durée médiane de survie des patients d'environ 1 an, c'est-à-dire pas grand-chose. Et surtout, même quand on arrive quand on diagnostique la tumeur, ici par exemple, quelqu'un vient consulter, on voit cette masse ici, dans son cerveau. On sait que c'est un glio. Il y a des neurochirurgiens absolument fantastiques qui vont réussir à l'enlever par neurochirurgie. On peut aussi faire de la radiothérapie, on peut faire plein de choses. Et tout va bien, l'opération se passe bien, on ne voit plus cette masse. Vous voyez, elle a disparu, masse blanche. Et bien même quand on enlève bien la tumeur, quelques mois plus tard, ça récidive, ça réapparaît. Et donc le gros problème de ce gliome, c'est le problème de la récidive. Alors, quand on a cette difficulté-là, on s'est posé une question. Est-ce que finalement, ces gliomes, méduloblastome, ça a été fait aussi, est-ce que ces gliomes pourraient avoir un lien avec d'éventuelles cellules souches? Alors, notamment en hématologie, qui sont toujours très très en avance sur ce qui concerne, par rapport à ceux qui travaillent en neurologie, en hématologie, ça fait déjà quelque temps qu'on connaît des cellules souches normales du sang. Ce sont des cellules qui se multiplient et qui génèrent un certain nombre de progéniteurs qui eux-mêmes vont donner naissance à toutes les cellules du sang. Donc ces cellules souches normales du sang sont extrêmement utiles. Et d'ailleurs, on les greffe aux patients quand on veut redonner ces cellules sanguines. Bien, dans le domaine de l'hématologie, il avait été proposé que si ces cellules souches du sang ou celles qui en dérivent sont malades, dérégulées, elles pourraient donner naissance à des tumeurs qui se multiplient de manière anarchique. Et donc, sachant cela, dans le domaine des neurosciences, ça fait pas très longtemps qu'on s'y intéresse, ça va faire allez, une petite, même pas 20 ans, on s'est demandé s'il y avait des cellules souches dans le cerveau, et puis s'il y avait des cellules souches dans les cancers du cerveau, et quel pouvait être le lien entre les deux. Donc je dis, ça fait vraiment pas longtemps. Alors, y a-t-il des cellules souches dans le cerveau ? Les cellules souches, on les connaît très bien pour le foie, pour l'intestin, la moelle osseuse, on fait des greffes de moelle osseuse. On les connaît aussi pour la peau. Ça, elles sont assez connues, puisque ce sont elles qui vous régénèrent la peau et qu'on peut utiliser aussi quand on va faire des greffes de lambeaux de peau. Il y a aussi des cellules souches dans les muscles. Alors, moins connues, on a des cellules souches au niveau du nez. Donc ça, c'est un peu moins connu. Ça régénère en fait tous les neurones qui vous servent à sentir. Et donc, à la fin des années 90, principalement à cette époque-là, on s'était demandé, est-ce que le cerveau peut avoir des cellules souches ? Et là, la première des choses que se sont dit les gens, pourquoi faire ? Puisque, à l'époque, régnait un dogme qui consistait à dire, d'ailleurs qu'on m'a appris, pourtant, ça remonte à pas très longtemps, un jour, quand vous naissez avec votre stock de neurones, vous vous débrouillez avec, et tout neurone perdu, ben tant pis pour vous, il sera définitivement perdu. Vous n'aviez qu'à y faire attention. Enfin, c'est ce qu'on m'a enseigné. Bon, heureusement, c'est un peu... Alors, ça reste en partie vrai, mais c'est un petit peu faux, fort heureusement. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait dit ça ? Pour une raison assez simple, c'est que si vous regardez les structures du cerveau, voilà un de ces neurones, voilà tous les fils qu'il a, donc tous les prolongements qu'il a, et ces prolongements sont en contact avec plein d'autres neurones. Donc on nous enseignait ça pour une raison assez simple, c'est qu'on ne voyait pas comment une nouvelle cellule serait capable d'en remplacer une ici, et puis d'adopter toute cette structure en termes de réseau. Voilà la raison pour laquelle il y avait ce dogme, entre autres. Et donc là, j'aime bien cette partie-là, puisque je passe aux petites bêtes. Ces cellules souches, on les avait initialement décrites chez le rat. Alors c'était un auteur, M. Altman, qui dans les années 70 avait dit... Enfin, avait donné des données scientifiques décrivant l'existence d'une formation de nouveaux neurones dans le cerveau des rongeurs. Grand mal lui en a pris puisqu'il a été décrié pendant 20 ans, bien 20 ans, et en gros, on lui a mis une grosse croix sur sa carrière scientifique, il n'a jamais pu publier ses travaux. Il a fallu attendre que des gens un peu plus farfelus, travaillant sur le chant des oiseaux, le chant du canari mâle, se mettent à redécouvrir cette thématique. Alors, juste pour vous dire d'où ça vient, le canari mâle, je ne sais pas si vous en avez, chaque année change de chant pour attirer la femelle en l'occurrence. Donc ces personnes étudiaient au départ la vocalise du canari mâle. Donc ils avaient décrit tout cet aspect-là. Ils ont dit pourquoi ce canari change-t-il de chant ? Quelles sont les structures sous-jacentes qui lui permettent de changer de chant ? Et donc, ils avaient regardé dans le cerveau de ces canaris, ils avaient vu qu'il y avait des neurones dans le centre du champ qui meurent et que ces neurones-là sont renouvelés chaque année. Et ce sont spécifiquement les neurones du centre du champ qui sont changés chaque année. Et donc, ce sont ces personnes travaillant sur ces canaris qui ont remis au goût du jour la notion de neurogenèse dans le cerveau. Alors, nous ne sommes pas des canaris, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, c'est apparu dans les années 80. Une quinzaine d'années après, il y a eu des travaux qui ont été repris chez l'homme, chez des patients qui étaient atteints de cancer. Donc il y a vraiment une histoire commune entre cancer et cellules souches neurales, à cancer en périphérie. Ces patients avaient reçu une injection d'un marqueur leur permettant, pour des besoins de diagnostic, de suivre l'évolution du cancer. Alors c'est un marqueur qui rentre dans les cellules qui se multiplient, qui sur mon image ici, oui c'est vert, est révélé en vert. Et ces patients, donc, on comptait leurs cellules cancéreuses et bien sûr on les traitait, ces patients. Ça va de soi. Mais ils s'étaient engagés qu'après leur décès, ils donneraient leur cerveau à la science pour qu'on puisse regarder si oui ou non il y a de la neurogenèse. Donc c'est un collègue suédois qui a fait ce travail. Donc, vous voyez, ça remonte à 98, donc ça fait une dizaine d'années, mais ce n'est pas si vieux que ça. Et c'est cette image qui, je dirais, a révolutionné un peu les choses, hein, où il a pu voir une cellule qui avait incorporé ce marqueur de cellules qui se multiplient, ici en vert, et il a coloré en rouge tout ce qui concernait les neurones, donc les cellules qui permettent la communication dans le tissu nerveux. Et donc il a dit, regardez, si cette cellule qui s'est multipliée, elle est rouge, c'est-à-dire c'est un neurone. Donc on fait des nouveaux neurones dans le cerveau. Alors on ne les fait pas n'importe où, mais il y a un ajout possible de nouveaux neurones dans le cerveau. Donc là, c'était la fin d'un dogme. Cette image-là, c'est la fin d'un dogme. Donc la bonne nouvelle, je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais moi ça me fait plaisir en tout cas, c'est que ces nouveaux neurones, il les a vus sur des patients qui avaient 70-80 ans. Donc c'est quand même un bel espoir, parce que ça veut dire qu'on fait de la neurogenèse tout au long de notre vie. Alors on ne la fait pas n'importe où. On l'a fait dans des structures privilégiées que j'ai représentées ici en vert. Alors, c'est peut-être pas évident, effectivement, à comprendre. Il y a deux structures particulières. Une qui est ici, en bleu, qui sert à la mémoire et à l'apprentissage, qui s'appelle hippocampe, parce que ça ressemble à un hippocampe. Et puis, une autre structure, on a des cellules souches, ici, qui bordent, en fait, les cavités du cerveau, qui sont les ventricules, qui contient des cellules souches qui vont fabriquer des nouveaux neurones qui vont migrer pour servir à des structures qui servent à sentir. L'autre chose qui a été assez originale dans le domaine des cellules souches du cerveau, c'est qu'on a réussi à cultiver ces cellules dans des boîtes de culture, donc en fait à les sortir de la structure, à les faire pousser pour les voir. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, si on récupère un de ces cerveaux, qu'on le coupe, on peut prélever la zone qui contient ces cellules souches. Alors, c'est très très fin, ce sont des petits fils, ça ressemble à un fil de couture, et c'est long sur, quelques millimètres. Donc, c'est une micro-dissection extrêmement patiente, en tout cas chez le rongeur, chez l'homme, c'est plus grand, bien sûr. Et à partir de ces zones-là, on peut mettre les cellules en boîte, avec des molécules qui leur permettent de pousser. Le premier jour, vous avez des cellules toutes seules, c'est comme ça, vous les avez isolées, elles sont toutes seules. Et au bout de quelques jours, ces cellules se multiplient et forment des petits paquets. Alors chaque petit rond de ce paquet est une cellule. Donc elles forment des petits paquets, des boules, on appelle ça des sphères. Sphères qu'on peut prendre, qu'on peut repiquer, et comme ça on peut augmenter toutes les semaines, chez le rongeur, de 5 à 10 fois le nombre de cellules souches, grâce à cette culture en boîte. Et si on les met dans des conditions appropriées, elles vont générer des neurones et les autres cellules du cerveau, qu'on appelle la glie, qui sont deux autres types de cellules. Donc il y a dans le cerveau, comme dans d'autres structures, des cellules souches capables de se multiplier, de former ces petites boules, ces sphères. Ces petites boules, elles n'existent que dans les boîtes. Dans le cerveau, ça ne forme pas des boules. Hein. Ça se multiplie, mais ça ne forme pas ça. C'est que dans les boîtes. Moi, ça me parle, mais des fois, j'oublie. C'est que dans les boîtes de culture. Dans le cerveau, elles restent sagement alignées, elles ne bougent pas. Donc, elles forment ces amas que l'on peut repiquer pour faire des nouveaux petits amas, et elles génèrent donc toutes les cellules du cerveau. On avait donc affaire à des cellules souches du cerveau. Donc première chose, première question, oui, il y a des cellules souches dans le cerveau. Donc ça remonte, je vous dis, 98-2000. Deuxième question, y a-t-il des cellules souches de cancer du cerveau? Pas les cancers importés, les vrais cancers du cerveau. Entre autres, là, je vais vous parler que des gliomes. Eh bien, là encore, c'est une technologie qui a la technologie qu'on avait développée sur les cellules souches neural, donc du cerveau normal, cette technologie a été transposée pour les cancers du cerveau. Donc les chercheurs ont prélevé des cancers de cerveau, les ont mis en culture exactement comme nous on le fait au laboratoire, et ils ont réussi à obtenir, pareil, des petites boules comme ça, donc ces fameuses sphères, mais de cancer. Alors, j'en ai vu, ça ressemble absolument pas aux cellules souches neurales normales. Alors, je dis toujours qu'elles sont moches, c'est pas très sympa pour les collègues. C'est pas qu'elles sont plus moches que d'autres, ça se multiplie très très vite. Là où nous, on met une bonne semaine pour avoir un amas, là, ça prend 2 jours. Donc, ça se multiplie très vite. Et en plus, les formes sont beaucoup plus irrégulières. Alors, c'est pas une raison, mais voilà, c'est un fait. Et à partir de ces cellules, on peut obtenir des cellules qui se différencient. Mais là encore, contrairement à ce qu'on a pour les cellules souches neurales normales, saines, eh bien, les cellules souches cancéreuses de cerveau, elles vont vous générer des cellules qui sont mal formées, qui ne sont pas très matures. Un neurone ne ressemble pas à un neurone, il est beaucoup trop gros, enfin il y a des prolongements trop gros. Il n'est pas assez mature en termes de choses qu'il exprime, donc c'est assez différent des cellules souches neurales normales. D'ailleurs, c'est plutôt rassurant. Si on prend ces cellules souches de cancer du cerveau et qu'on les injecte à une souris, si c'est vraiment une cellule souche de cancer du cerveau, alors cette cellule doit provoquer un cancer. Alors, c'est ce qui a été fait sur ici un animal. Donc on lui a injecté une cellule souche de cancer du cerveau. C'est plus petit, mais si je fais rond petit, vous ne verrez rien. On lui a injecté ces cellules souches. Et voilà ce qui lui arrive à son pauvre cerveau quelques semaines plus tard. Donc voilà le cerveau. Là, ça, ce paquet, c'est la tumeur. Oui, je pense que ça, voilà. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est parce que la cellule est cancéreuse ou parce que c'est une souche? Est-ce que ça fait la même chose si je prenais des cellules souches du cerveau normales? Donc si on injecte des cellules souches normales, le cerveau n'en souffre absolument pas. Donc c'est vraiment une caractéristique de cellules souches de cancer du cerveau. Alors qu'est-ce que ça signifie? Quel est l'impact de l'existence de ces cellules souches de cancer du cerveau pour la médecine? Enfin pour le futur de la médecine. Actuellement, je vous ai dit, le gros problème avec les gliomes, c'est que ça récidive. Donc là, c'est très théorique. On imagine ici que j'ai un cancer, ici, celui-là. Dans ce cancer, il y a et des cellules souches qui sont capables de refaire des nouvelles tumeurs, et puis des cellules qui en dérivent, qui a priori ne font pas de nouvelles tumeurs si on les transplante. On pense, je ne sais pas si c'est vrai, on pense que les traitements actuels vont tuer ces cellules progénitrices en jaune, ici, et vont laisser survivre les cellules souches initiatrices de cancer. Cellules souches de cancer. C'est ce qu'on pense qui se passe. Donc, que va-t-il se passer pour le patient? La même chose que pour la souris. Ces cellules en rouge vont refaire une nouvelle tumeur. Enfin, c'est une hypothèse, hein, on n'est pas sûr. On imagine maintenant qu'on a réussi un coup d'exploit et qu'on arrive en plus à tuer ces cellules souches de cancer. Ben, ça, c'est le futur, hein. Si on arrivait à les éradiquer, on espérait que ces cancers ne récidivent plus. Voilà l'espoir qu'il y a. C'est pas fait. Je tiens à le dire tout de suite. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a des cellules souches neurales, d'une part, des cellules souches de cancer, d'autre part, qui ont des comportements à la fois proches, mais très différents. Donc, comportements assez différents. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces cellules souches de cancer viennent des cellules souches normales? C'est une question comme une autre, mais qui est légitime. Je vais vous montrer surtout l'impact que ça a. La première des choses qu'ont remarqué les cliniciens, c'est que de nombreux gliomes sont en lien direct avec la structure qui contient les cellules souches. Voilà ici une coupe frontale, donc comme ça. On vous imagine quand on coupe comme ça, Barry RM, hein, c'est une coupe virtuelle. Ici, ce serait le haut, en haut du cerveau, ici le bas. Là, ces aspects noirs, ça, ce sont les ventricules du cerveau, les fameuses cavités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les cellules souches normales se situent là, ici, sur cette bordure ici. ce qu'ont pu constater les médecins, c'est ici. Ça, c'est une tumeur. Elle est en contact avec cette zone qui contient les cellules souches. Ici, sur une coupe horizontale, comme ceci, virtuelle, voici là la zone où on va trouver les cellules souches, et voilà là le gliome, donc en lien avec cette structure qui contient les cellules souches. Donc il semble y avoir au moins un lien topographique avec, entre cancer et cellules souches. L'autre chose qui a été faite, donc en 2009, donc c'est hier, enfin presque, c'est un travail fait chez l'animal, ça a consisté à rendre les cellules souches normales, à les rendre malades, enfin, à les rendre cancéreuses. Alors on a injecté quelque chose spécifiquement dans ces cellules souches ici, et donc j'ai décrété qu'elles devenaient donc malades, j'ai dessiné en rouge. Que se passe-t-il quand on fait ça? Donc on ne fait que toucher ces cellules-là. Bien, chez l'animal, il se développe ici des tumeurs. Donc si on rend les cellules souches malades, elles deviennent, enfin, ça génère les cancers, les gliomes. Si maintenant, au lieu d'injecter dans la zone de cellules souches, j'avais injecté là, ou là, enfin n'importe où, où vous voulez, mais là où il n'y a pas de cellules souches, eh bien, vous ne faites pas de gliomes. Donc vraiment, il y a vraiment un lien. Il semblerait que ces cancers du cerveau pourraient provenir de cellules souches qui sont devenues malades. Donc voilà où on en est. Si donc les cancers auraient pour de cerveau, en tout cas les gliomes, auraient une origine possible, à savoir des cellules souches qui sont devenues malades. Alors, quelle est la signification de ça? La signification de ça, c'est l'une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que les molécules qui contrôlent les cellules souches normales, finalement, pourraient aussi contrôler les cellules souches cancéreuses? Si c'est vrai, eh bien, on a déjà pas mal accumulé de connaissances en une dizaine d'années sur les cellules souches normales, on pourrait peut-être aller plus vite sur les cellules souches cancéreuses. Hypothèse. Donc ça aussi, ça a été testé. Alors, un certain nombre de molécules, peu importe leur nom, voilà, je vous en ai mis trois, mais il y en a d'autres, on sait qu'elles régulent les cellules souches normales, et on a découvert qu'elles régulent aussi les cellules souches tumorales et la croissance tumorale. Alors, voilà. Ah oui, ça passe pas, c'est tout noir. Juste pour vous dire qu'en 2011, donc c'est maintenant, là, eh bien, on s'est servi de ces molécules-là pour rendre sensibles les cellules souches de cancer à des traitements qu'on utilise actuellement en cancérologie pour les gliomes, qui est le thémozolomide. Donc en fait, on s'en sert pour potentialiser les traitements actuels. Enfin on s'en sert pas en médecine. On s'en sert en recherche clinique pour voir si on peut potentialiser ces affaires-là. Alors l'autre chose qui est assez étonnante, c'est que finalement, la difficulté qu'on a avec les cellules souches de cancer, enfin avec le cancer, les gliomes, je vous ai dit, c'est qu'on n'arrive pas à les éradiquer pour une raison simple, c'est qu'on pense qu'ils se cachent. Alors ils se cachent dans le cerveau, certes, ils se cachent, et qu'est-ce qui se cache? Ce sont les cellules souches de cancer dont on pense qu'elles se cachent. Là encore, il y a une étude très récente qui a été faite, une étude rétrospective sur des patients qui avaient reçu un traitement par irradiation. L'hypothèse qu'avaient émis ces médecins et chercheurs, c'est que si les cellules souches sont, quand elles deviennent malades, génèrent des cancers, alors les cellules malades, donc les cellules cancéreuses, doivent être dans les zones où il y a les cellules souches, qu'elles se cachent ici. Donc voici ici le cancer, et voilà là les cellules souches malades, en dessin. Donc l'hypothèse qu'ils ont émise, c'est que si on ne tue que cette zone, la cellule souche du cancer, elle est très à l'abri et pourra refaire un nouveau cancer. Et donc, c'est ce qu'ils ont regardé. Ils ont pris, donc, 2010, c'est un travail de 2010, ils ont regardé une étude rétrospective sur des patients qui avaient reçu des irradiations pour des traitements de gliome, je veux dire, ça fait partie du traitement. Et ce qu'ils ont vu, c'est que quand l'irradiation touchait aussi un peu cette zone-là, où il y a normalement des cellules souches, alors les patients, globalement, avaient une meilleure survie que les autres patients. Alors vous allez me dire, on a tué les cellules souches de cancer, mais on a aussi tué les cellules souches normales. Moi, quand j'avais dit ça à un collègue, il me dit, tu sais, les patients à qui il reste plus qu'un an, ils s'en fichent d'avoir des défauts de neurogenèse plus tard. Je dis, t'as raison. Je retire ma remarque. Voilà. Donc vous perdez un peu de neurogenèse, mais vous gagnez quand même en vie, puisque de toute façon, sinon vous n'en avez que pour un an en moyenne. Donc voilà un autre aspect donc, en lien avec ces cellules souches. Et alors, de manière encore plus intéressante, aussi intéressante tout au moins, ce sont des travaux qui ont été initialement faits chez le rongeur et dans lesquels il a été vu que les cellules souches normales sont capables d'aller traquer, donc d'aller à la poursuite des cellules cancéreuses, du cancer du cerveau. Je vous ai dit tout à l'heure, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre toujours aisément les zones qu'on voudrait traiter. Et si possible, on aimerait bien ne pas toucher les autres zones du cerveau, parce que malgré tout, c'est précieux. Donc là, il y a eu des travaux initialement faits chez le rongeur qui ont montré que les cellules souches sont capables d'aller infiltrer les tumeurs, d'aller jusqu'à la tumeur, les normales, les cellules souches normales vont jusqu'à la tumeur, vont vers la tumeur et l'infiltrent. Et il y a une chercheuse qui avait proposé de prendre du coup ces cellules souches normales et de leur mettre un médicament à l'intérieur de ces cellules souches et de s'en servir en fait comme moyen de transport pour aller jusqu'à la tumeur pour qu'elle délivre ce médicament au sein de la tumeur et que du coup ça tue les cellules tumorales. Donc ça, c'est un concept qui était apparu à début 2000 chez le rongeur. Donc qu'est-ce qui a été fait ici chez le rongeur? C'est qu'ils avaient pris des tumeurs qu'ils ont injectées dans le cerveau de ce rongeur. Ils ont ensuite injecté des cellules souches normales, mais à qui on a mis un médicament à l'intérieur, donc génétiquement modifié. Et ce qu'ils ont vu, c'est que ces cellules vont dans la tumeur et vont libérer le médicament qui va tuer la tumeur. En gros. Et donc là, j'ai découvert que le 11 novembre 2010, il y a le premier essai clinique qui a été fait sur la base de ce principe. Donc c'est un essai clinique qui a lieu aux États-Unis, en Californie, dans un centre qui s'appelle, je traduis en français, la Cité de l'Espoir. Et donc ils ont injecté ces cellules souches qui vont délivrer le médicament à une patiente qui a un gliome. Et c'est tout ce que je sais, voilà. Elle s'appelle Jane Vonks, voilà, c'est son petit nom, la première patiente qui est en essai clinique pour ça. Donc je ne peux pas vous en dire plus, puisque de toute façon, je ne sais pas. Et donc je voulais vous remercier pour votre attention. Et puis, je remercie aussi la Ligue contre le cancer qui nous finance tous nos travaux. Je vais te laisser la place. Oui, on fera une... Allez. Vas-y, je te fais la place. Tiens.
Voilà. Merci Valérie. Donc, alors on va changer de sujet. On va toujours parler de cellules souches, mais cette fois-ci de cellules souches leucémiques. Donc moi je travaille au CHU de Poitiers, donc on a une unité INSERM sur les cellules souches et leucémie. Alors diaporama, c'était. À partir du début, voilà. Donc, alors j'ai un petit peu changé le titre parce que cellules souches et leucémie, c'était extrêmement vaste. Donc, parce que cellules souches et leucémie, ça fait quasiment un bouquin entier. Donc, en une demi-heure, c'était un peu juste. Donc, on va parler des cellules souches leucémiques, c'est-à-dire la contrepartie de ce que Valérie Corona vous a parlé au niveau du sang. Alors, je vais commencer donc par le début de tout. C'est en fait une histoire très brève, mais qu'on vit tous, c'est l'histoire des cellules souches. Donc, vous savez qu'on vient tous d'une seule cellule, qui est l'œuf fécondé. Et cet œuf fécondé va donner naissance ensuite à deux cellules, quatre cellules, un amas de cellules. Et puis, à partir de là, c'est une structure, c'est vraiment l'embryon le plus primitif. C'est au niveau de cet embryon le plus primitif où se fait un petit vide, on appelle ça un blastocyste. toutes les cellules du corps vont venir de cette masse, qu'on appelle masse interne. Et le début de la spécialisation va nous donner ensuite l'ensemble des organes. Donc, si vous prenez ces cellules, si vous les mettez en culture, vous ferez ce qu'on appelle aujourd'hui les cellules souches embryonnaires. Ce sont des lignées. Donc, vous savez qu'il y a toute une médiatisation autour de ça. Les cellules souches embryonnaires, destruction de l'embryon, c'est ça. Donc, vous détruisez l'embryon à ce stade-là. Vous faites des cellules souches embryonnaires, mais bien sûr, ce sont des embryons qui ont été donnés à la recherche. Par contre, si vous laissez vivre cet embryon, alors j'ai plus de flèches, donc vous allez avoir bien sûr donc un être humain entier. Alors, la définition de base d'une cellule souche, c'est donc dans tous les bouquins ou dans tous les sites internet, si vous regardez, il y a deux concepts. Une cellule souche doit d'abord pouvoir faire une cellule identique à elle-même, donc on appelle ça auto-renouvellement. Donc, elle donne naissance à des cellules identiques à elle-même, parce que sinon, elle ne serait pas une cellule souche, elle diviserait et puis on la perdrait. Et deuxième caractéristique, cette cellule, elle se différencie pour assurer la production des organes dans lesquels elle se trouve. Donc, pour que finalement, au niveau du sang, au niveau effectivement du cerveau, au niveau du muscle, il faut que l'homéostasie, ce qu'on appelle l'homéostasie, le fonctionnement de l'organe, donc, soit intact. Donc, et ces définitions donc, s'adaptent également aux cellules souches du sang. Ça, c'est pour, effectivement, vous rappeler, donc Valérie en a parlé également. Donc, ce sont des cellules, on sait maintenant que, mis à part ces cellules souches embryonnaires, qui sont des cellules donc, artificielles, parce qu'on les fabrique in vitro, il existe donc in vivo des cellules souches adultes spécifiques des tissus. Effectivement, un des meilleurs exemples où on a pu montrer l'existence de ces cellules, c'est au niveau du système sanguin, parce que ce sont des cellules faciles à obtenir. Une prise de sang, c'est beaucoup plus facile qu'une ponction de cerveau, donc on ne fait pas, heureusement, chez l'homme. Et on sait depuis longtemps, donc on va revenir un petit peu en détail sur ces cellules, qu'il existe effectivement une cellule souche. Maintenant, on sait les manipuler, on sait les congeler, on sait les greffer, donc avec ces cellules finalement qui sont complètement passées à la clinique. Donc au niveau du cerveau, donc Valérie en a parlé, ce sont des découvertes plus récentes, mais on sait aussi que dans d'autres organes, il y a des cellules, comme par exemple le muscle. Effectivement, si vous voulez faire comme du Schwarzenegger, vous faites beaucoup d'exercices, vous augmentez votre masse musculaire, c'est parce qu'un certain nombre de cellules souches qu'on appelle des cellules satellites vont se mettre en cycle. Ils vont augmenter votre masse de muscle. Et la même chose au niveau du foie, vous savez peut-être qu'effectivement, si vous faites une hépatectomie des deux tiers, donc en tout cas chez l'animal, on le fait sur le plan expérimental, mais chez l'homme, c'est vrai également, si vous enlevez une partie, par exemple, du foie, le reste va régénérer. Ce qui reste va régénérer l'ensemble, tout en sachant que peut-être ce sont des cellules différenciées qui sont à l'origine de cela, mais c'est un petit peu en dehors du sujet. Donc, maintenant, en ce qui concerne, pour rentrer directement dans ce qu'on appelle l'hématopoïèse, c'est la production des cellules du sang tout au long de la vie. Hein, par rapport à d'autres cellules souches, elles ont un certain nombre de caractéristiques que j'ai résumées ici. D'abord, ce sont des cellules, donc, comme j'ai montré sur la diapositive précédente, elles sont capables de s'auto-renouveler. Donc voilà, une cellule, elle va se diviser, elle va donner naissance. D'abord, une des cellules filles va décider d'être une cellule fille identique à la cellule mère. Vous voyez que là, c'est absolument identique. Et l'autre moitié va se différencier, va donner naissance à ce qu'on appelle des progéniteurs. Et ces progéniteurs vont donner ensuite à des cellules matures, donc qui vont assurer des fonctions très diverses, comme les plaquettes, les globules blancs, les globules rouges. Tout cela donc venant d'une seule cellule. Donc vous voyez comment il y a une plasticité extraordinaire au niveau de cette cellule souche. Alors, deux autres caractéristiques par rapport à d'autres cellules souches d'organes, disons. Ces cellules, comme le sang circule partout dans le corps, elles sont capables de migration. Donc, elles migrent, et comme leur habitat, c'est la moelle osseuse, elles peuvent migrer de la moelle osseuse vers le sang, on appelle ça la mobilisation. Ou alors, elles peuvent, quand on fait des greffes de cellules souches, elles peuvent trouver leur place. Donc, quand on fait une greffe de moelle, par exemple, on ne va pas greffer les cellules dans la moelle, on va faire juste une transfusion sanguine, c'est la même chose. Et à ce moment, les cellules de moelle qu'on greffe, les cellules souches qu'on greffe, vont trouver leur place au niveau de la moelle osseuse. Donc, on appelle ça homing en anglais, ou domiciliation. Et puis l'autre caractéristique majeure, c'est la quiescence ou la dormance. Et ça, c'est un, ça a également une certaine relevance, entre guillemets, avec les cancers et les leucémies. On sait que ces cellules souches peuvent entrer en quiescence, en dormance. Elles peuvent dormir pendant des années. Et ça a été montré chez les macaques, où, chez qui on a injecté effectivement un certain nombre de marqueurs spéciaux. Et on s'est rendu compte que ces cellules dormaient pendant plusieurs années, et au bout de 8 ans, par exemple, et se réveillaient pour redevenir actifs. Alors, ces cellules, effectivement, ne se baladent pas comme ça, donc en électron libre. Elles se trouvent dans la moelle osseuse, elles sont nichées au niveau de la moelle osseuse, où elles aiment bien être complètement, non seulement au chaud, mais dans les conditions hypoxiques, donc là où il y a le moins d'oxygène possible. Et d'ailleurs, au laboratoire, pour mieux les faire pousser, on a des conditions d'hypoxie. Et donc là, c'est une diapositive un peu compliquée, mais ça montre que, essentiellement, ce sont des cellules qui sont donc... qui poussent au niveau de l'os, donc on appelle ça donc l'endoste, et ne poussent pas n'importe comment, reconnaissent des marqueurs spécifiques, ce sont des récepteurs, par exemple vous voyez ici un récepteur angiopoïétine, donc vous avez des marqueurs, des molécules sécrétées par ces cellules, par exemple SDF1, ostéopontine, et puis les cellules hématopoïétiques, donc qui sont des cellules souches hématopoïétiques qui ont des récepteurs, vont venir reconnaître ces molécules qui sont sécrétées au niveau de la moelle osseuse. Alors de temps en temps, donc les deux flèches indiquent cette migration. Elles vont passer dans le sang périphérique parce qu'on en a besoin. Ou alors, quand on fait des greffes, elles vont passer du sang vers la moelle osseuse et vont venir se nicher au niveau de la niche ostéoblastique. Alors maintenant, ce qui est assez extraordinaire au niveau toujours de l'hématopoïèse normale, donc des cellules souches hématopoïétiques normales, c'est leur diversification. Et ça, maintenant, on a disséqué bien sûr les phénomènes qui régulent cet aspect, mais c'est vraiment assez extraordinaire de penser qu'une seule cellule, donc la cellule souche, va donner naissance à des cellules aussi différentes les unes des autres que des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. Donc là, par exemple, vous voyez un schéma ici d'une vraie image donc de ce qu'on appelle un frottis au niveau du sang. Les globules rouges donc, sont indiqués ici, vous voyez. Ici, vous avez une plaquette. Et vous avez donc ici, donc, qu'on voit aussi sur ce schéma, donc des plaquettes. Et puis vous avez donc ici des cellules de la lignée granuleuse. Tout ça donc venant d'une seule cellule sous schéma hématopoïétique. Alors, ce qui est également extrêmement impressionnant au niveau de l'hématopoïèse, c'est les chiffres qui sont assez étonnants quand on fait donc un peu d'arithmétique. Donc il a été calculé que chez un adulte de 70 kg environ, donc le nombre de globules rouges fabriqués, c'est à peu près 210 milliards par jour. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de cette conférence, vous allez avoir 8 milliards de cellules en plus. Donc vous êtes en train de fabriquer. Et heureusement qu'on ne se rend pas compte, mais bon, c'est parce que ce serait sinon assez difficile de... Donc, et ce qui est assez extraordinaire également, c'est que ces cellules sont fabriquées, mais heureusement qu'elles sont en même temps détruites, parce que s'il n'était pas le cas, vous auriez pris 140 grammes par jour de poids. Vous calculez, au bout de 6 mois, vous auriez doublé votre poids corporel. Donc finalement, on est bien fait sur le plan de l'homéostasie. Le nombre de cellules donc, de l'adulte étant constant, estimé, bon, ça personne ne sait, mais c'est probablement de l'ordre de 10 puissance 14 cellules totales. Et toutes ces notions, donc c'est très important pour nous, effectivement, dans la leucémogénèse. Et quand on fait maintenant disparaître ces cellules mauvaises, donc on va y revenir, quand on fait notamment donc, des thérapeutiques ciblant ces cellules. Alors, cette diapositive vous montre donc, un exemple de l'équilibre. Production-destruction. Effectivement, dans le fonctionnement normal, vous avez une production et une destruction relativement donc identiques. Et puis, si vous avez un fonctionnement insuffisant au niveau de la moelle osseuse, vous allez par exemple avoir une anémie. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il peut y avoir aussi une destruction excessive. Mais globalement, c'est les anémies qu'on appelle d'origine centrale. Hein, l'hématologie est une discipline extrêmement scientifique. C'est quand vous fabriquez, quand l'usine ne marche plus, donc effectivement, à la fin, vous avez une insuffisance. De l'autre côté, il y a des maladies où vous avez un hyperfonctionnement de l'usine. L'usine produit trop de globules rouges, par exemple. Vous avez une maladie qui s'appelle donc polyglobulie. Mais ce ne sont pas des leucémies, donc on va en parler tout de suite. Alors, comment sait-on que les cellules souches hématopoïétiques existent? Et ça, ça a été fait, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça a été fait uniquement par des techniques qui ont permis aux chercheurs de calculer la durée de vie donc de ces cellules. On s'est rendu compte, par exemple, qu'un globule blanc, donc un leucocyte, hein, quand vous faites des prises de sang, donc on vous donne des résultats, hein, des leucocytes, on sait qu'un leucocyte vit 24 heures, par exemple, au niveau du sang. Après, il passe dans les tissus et il meurt. Les plaquettes, c'est 6 à 7 jours. Les globules rouges vivent à peu près 120 jours. Donc, étant donné que notre durée de vie, ça varie, disons, dans le meilleur des cas, entre 75 et 80 ans, donc les gens se sont dit, il faut absolument une cellule qui est capable de renouveler ça, parce que sinon, on ne voit pas comment on peut avoir toujours le même nombre de globules blancs, le même nombre de plaquettes, tout au long de la vie. Donc, les expériences, par la suite, ont permis de montrer que c'était le cas. Alors, comment reconnaît-on une cellule souche de moelle osseuse? D'abord, cette cellule souche qui nous intéresse donc, au niveau du sang n'est pas identifiable par des techniques microscopiques. Donc, si vous regardez au microscope, vous ne pouvez pas le reconnaître. Mais on sait que cette cellule existe parce qu'il existe effectivement donc, ce qu'on appelle une progéniture des globules rouges, des plaquettes des globules blancs à partir de cette cellule souche. Alors, pour l'identifier, en tout cas chez l'homme, bon, chez la souris, il y a d'autres méthodes. Chez l'homme, il y a deux techniques. Une technique qui consiste à mettre ces cellules en culture. Et ces cellules qui ne sont pas reconnaissables au départ au microscope, si on les met en culture, si on les fait pousser donc ce qu'on appelle ex vivo, en dehors de l'organisme, elles deviennent reconnaissables par différenciation. Et à ce moment-là, en calculant le nombre de cellules qu'on a mis en culture, on peut savoir combien de cellules souches il y avait dans le prélèvement initial. Donc ça, c'est un truc un petit peu artificiel, mais ça marche très bien. De l'autre côté, plutôt que de faire la culture et changer, parce qu'il faut les nourrir ces cellules, hein, c'est comme des êtres humains, il faut les nourrir, en changeant le milieu de ces cellules, au lieu de faire ça nous-mêmes, on injecte à des souris immunodéficientes, qui ne sont pas capables de rejeter les cellules donc, humaines, et à ce moment-là, en regardant les cellules humaines chez cette souris, on peut calculer le nombre de cellules souches qu'il y avait dans le prélèvement initial. Alors maintenant, revenons à l'aspect plus pathologique. Et qu'est-ce qu'une leucémie? Alors, la définition d'une leucémie, c'est prolifération non contrôlée d'une cellule souche, mais d'une seule cellule souche. Donc, on sait que c'est d'ailleurs un modèle pour l'ensemble des cancers, finalement, dans tout ce qui est la leucémogénèse. C'est dans la leucémie qu'on s'est rendu compte pour la première fois donc, qu'il y avait une seule cellule qui tournait mal, et puis c'est cette cellule-là qui était à l'origine de l'ensemble de la tumeur. Alors, il y a plusieurs types de leucémie. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Ce qu'on appelle des leucémies lymphoïdes, plus de la lignée lymphocytaire, ou des leucémies myéloïdes, qui intéressent plus la lignée des globules blancs, dont on va parler aujourd'hui. Alors, sur le plan toujours clinique, les leucémies myéloïdes, il y a deux types. D'une part, des leucémies aiguës. Alors, pourquoi aiguës? On dit aiguës en médecine, quand c'est quelque chose qui apparaît de manière brutale. Donc c'est un début brutal, et ce sont des leucémies, ce sont des maladies dans lesquelles il y a une prolifération des cellules, et il n'y a plus de différenciation. À la fin, vous n'avez plus de globules rouges, vous n'avez plus de plaquettes, donc ça ne va pas jusqu'au bout dans la différenciation. Du coup, si vous n'avez pas assez de plaquettes, vous allez avoir des hémorragies. Si vous avez peu de leucocytes, vous allez avoir des infections. Et si vous n'avez pas de globules rouges, vous serez anémique. Donc, par rapport à ces leucémies aiguës, il existe des leucémies chroniques, où le début est plus progressif. Et là, c'est plus tard. Donc, ce sont des maladies plutôt de prolifération, mais sans blocage de la différenciation. Du coup, les cellules sont fabriquées, mais tout s'accumule. Donc, globalement, vous avez, au lieu d'avoir des diminutions de ces chiffres, des cellules terminales, vous allez avoir une augmentation des globules blancs ou des plaquettes, par exemple. Alors, voilà donc un schéma d'une hématopoïèse leucémique, hein, c'est les souches leucémiques par rapport à une hématopoïèse normale. Donc, dans les situations normales, donc je vous rappelle, vous avez des cellules souches qui s'auto-renouvellent, mais qui se différencient en même temps, qui vont donner des progéniteurs, ensuite des cellules terminales, vous voyez ici des polynucléaires neutrophiles, hein, des magnifiques cellules. Donc, ce sont des cellules différenciées qui vont finir par mourir. Hein, donc, on a vu qu'ils ont une durée de vie limitée. Par contre, quand vous avez une leucémie, ces cellules, vous voyez qu'elles sont absolument différentes. Ce sont des cellules des blastes, qu'on appelle des blastes. Elles ne sont pas du tout différenciées. Et il n'y a plus de différenciation. Donc, du coup, les cellules différenciées n'étant plus fabriquées, vous allez avoir donc des symptômes liés au manque de ces cellules. Donc c'est ce qu'on appelle donc une leucémie aiguë. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez une leucémie chronique, et en particulier une leucémie myéloïde chronique, dont on va parler donc plus en détail. Donc dans cette maladie, la différenciation n'est pas perturbée. Ce sont des maladies comme d'accumulation. Ça se manifeste par une augmentation de la taille de la rate. Donc vous voyez ici la rate que l'on peut palper en clinique. Et comme l'hématopoïèse normale, donc la différenciation continue. C'est-à-dire que l'ensemble des cellules anormales vont quand même se différencier. C'est la particularité par rapport au leucémie aiguë. Mais la gravité, c'est que au fur et à mesure du temps, si on ne traite pas ces patients, il y aura une phase qu'on appelle une phase chronique qui va se terminer vers une phase d'accélération. La maladie va devenir plus grave et puis la différenciation va s'arrêter pour finir dans une situation de leucémie aiguë. Donc cette leucémie chronique, de manière inexorable, va conduire à une leucémie aiguë. C'est un peu une épée de Damoclès. Et c'est vraiment toute la gravité de cette maladie. Et on va revenir comment les gens, finalement, ont pu y remédier. Alors, maintenant, de manière plus générale, la cause des leucémies, on sait maintenant, donc avec des techniques modernes de biologie moléculaire, dans environ 80% des cas, il y aura une anomalie génétique, soit une mutation, soit un changement de localisation d'un chromosome à l'intérieur de la cellule. C'est pas une maladie héréditaire, mais c'est génétique. Dans 80% des cas, donc on trouvera une anomalie. Et cette cellule souche porteuse de la mutation donc va transmettre, comme elle va s'auto-renouveler, à d'autres cellules exactement la même anomalie. Et puis, au fur et à mesure, donc vous avez commencé avec une seule cellule, et au fur et à mesure du temps, et dans la leucémie aiguë, c'est rapide, vous allez avoir donc votre moelle envahie par ces cellules anormales. Donc vous allez avoir que quelques cellules souches normales qui vont revenir après quand vous traitez le patient donc par des thérapeutiques permettant d'éradiquer les leucémies. Voilà. Alors, c'est un schéma un peu compliqué de base génétique. Donc, globalement, dans les leucémies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques, donc on a un certain nombre de gènes de fusion, donc deux gènes, deux chromosomes donc, qui se de manière complètement donc, inadaptée vont fusionner pour faire une protéine anormale. Et puis, dans la leucémie myéloïde chronique, c'est un petit chromosome qu'on appelle le chromosome Philadelphie qui va être à l'origine de la maladie. Alors globalement, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gènes? Parce que quand ils vont apparaître à l'intérieur de la cellule, en fait c'est pour déréguler complètement le métabolisme de la cellule, et ils vont tout faire pour que la cellule survive. Effectivement, il y aura une augmentation de la survie cellulaire, inhibition de la différenciation, augmentation de l'auto-renouvellement, et puis augmentation de la prolifération. Et tout ça, donc le fait de disséquer tous ces phénomènes, c'est important pour nous parce que ça constitue pour nous des cibles thérapeutiques potentielles. On peut agir donc sur ces cibles. Alors ce qu'on s'est rendu compte, du fait que finalement, dans les cellules souches leucémiques, il y avait également une hiérarchie, il y avait donc un patron, il y avait des chefs de projet, et puis vous aviez donc effectivement des personnes qui exécutaient le travail. Donc c'est une hiérarchie avec des cellules souches initiatrices des leucémies, où c'est un réservoir de cellules leucémiques. Vous avez des progéniteurs leucémiques qui ont une prolifération et différenciation sont limitées, du coup finalement un arrêt de la différenciation conduisant donc au phénotype qu'on voit chez les patients. Alors il existe, comme d'ailleurs des cellules souches normales, des techniques pour reconnaître ces cellules. En morphologie, c'est toujours très difficile, au microscope on peut pas les reconnaître. Et on les reconnaît également, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les cellules souches normales, par des techniques d'injection des cellules de patients aux souris immunodéficientes. Et ensuite, quand une leucémie apparaît chez une souris qui a reçu ces cellules, on prend les cellules humaines qui sont dans cette souris, on greffe à d'autres souris, et s'il y a une prise de greffe, c'est qu'il y a eu un auto-renouvellement de ces cellules. Donc c'est comme ça qu'on a pu identifier donc une cellule souche initiatrice de leucémie, on appelle ça SCID, LTCIC, leukemia initiating cell plutôt en anglais. Donc, mais ce sont bien sûr des techniques qu'on ne fait pas en routine donc dans nos services. Alors, donc Les biologistes de la cellule souche aiment bien tout ce qui est intellectuel et tout ce qui est, disons, sémantique, etc. C'est vrai qu'il y a des congrès entiers là-dessus sur voir est-ce qu'une cellule fait ça ou versus ça. Mais ça a quand même un certain nombre d'intérêts éventuellement cliniques. Il y a un certain nombre de nouveaux concepts. Par exemple, initialement, on pensait qu'une cellule souche initiant les leucémies était forcément une cellule primitive. Donc c'était forcément une cellule en haut de la hiérarchie qui donnait naissance à l'ensemble. Donc c'est effectivement la plupart des leucémies aiguës, et c'est aussi le cas de la leucémie myéloïde chronique. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'une cellule souche différenciée, une cellule plutôt différenciée, peut redevenir souche par plasticité. C'est-à-dire qu'elle est différenciée, mais il y aura une acquisition des caractéristiques souches par plasticité de ces cellules différenciées, et c'est le cas notamment de certaines leucémies aiguës, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Et certains auteurs pensent que c'est aussi le mécanisme de transformation vers une leucémie aiguë de la leucémie myéloïde chronique. Alors, c'est schématisé ici. Donc, dans l'hypothèse classique, vous avez la cellule souche leucémique qui se renouvelle, qui va donner naissance donc, à la maladie. Et puis, dans certains cas, il y aurait effectivement un progéniteur différencié qui n'était pas capable de se renouveler, cette cellule. Il y a un événement génétique, on sait par exemple qu'il y a un gène qui s'appelle le MLL, peut faire ça. Cet événement génétique va rendre cette cellule qui était différenciée souche. Donc elle va devenir souche. Du coup, c'est cette cellule qui va faire qui va être responsable de la maladie. Et il peut y avoir effectivement des implications thérapeutiques potentielles parce que cette cellule souche, elle peut être plus difficile à éradiquer que celle-ci ou vice-versa, on ne sait pas trop. Alors, donc ça, c'est juste un aspect sémantique. Alors, comment traite-t-on les leucémies ? Les leucémies aiguës se traitent par des chimiothérapies, qu'on appelle les chimiothérapies d'induction et traitement d'entretien. Une autre méthode, c'est la greffe de cellules souches allogéniques, on prend dans la fratrie. Ou alors, certains types de leucémies, notamment les leucémies promyélocytaires, se traitent par des agents de différenciation, c'est-à-dire on pousse la différenciation vers les cellules terminales, et après on sait que les cellules vont mourir, donc on ne fait rien d'autre. Donc ça c'est évidemment très attractif, mais ça ne peut se faire que dans certains types de leucémies, assez rares d'ailleurs. Alors pour la leucémie myéloïde chronique, maintenant on va parler que de ça pour finir. On a actuellement donc des thérapies qui ont révolutionné cette maladie, qu'on appelle des thérapies ciblées. Et par rapport aux chimiothérapies qui donnent les effets secondaires que vous connaissez, hein, perte des cheveux, une diminution très importante de l'ensemble des cellules du sang, donc des anémies, des saignements, etc. Les thérapies ciblées, c'est vraiment un modèle fantastique en cancérologie parce que ces cellules, ces thérapies visent uniquement les cellules leucémiques et on les appelle d'ailleurs pas chimiothérapie mais inhibiteurs. Et là donc le premier de ces inhibiteurs qui est passé à la clinique, qui a révolutionné donc cette maladie, s'appelle le Glivec imatinib. Alors pour revenir un petit peu maintenant en l'histoire de cette maladie, pour dire finalement comment on est arrivé à l'imatinib, en fait c'est une maladie qui a été découverte il y a plus de 150 ans. Par un auteur allemand et un écossais. Il y avait un français, mais il n'a pas publié. Donc, si vous n'avez pas publié, donc évidemment, vous n'êtes plus cité. Donc, Alfred Donner avait, en 1839, avait déjà décrit probablement cette maladie, mais comme il n'a pas publié, donc il n'est plus cité. Alors, en fait, la première étape de la révolution a eu lieu il y a 50 ans. Donc, en 2010, on était au 50e anniversaire de la découverte de ce fameux chromosome, qui est le premier marqueur dans un cancer humain. Ce petit chromosome Philadelphie, donc alors on voit ici donc ce chromosome là, ce petit chromosome Philadelphie, a été découvert donc par Novell et Hungerford. Alors Hungerford, c'était un thésard, donc un étudiant en thèse, et son directeur de thèse, Novell, lui avait donné donc effectivement d'étudier, comme la maladie était connue, les lames de ces malades, et il a trouvé effectivement donc un petit chromosome sur une série de malades, et ces malades étaient des femmes. Pardon, c'était des hommes. Et à ce moment-là, son directeur de thèse lui a dit « Mais c'est le chromosome Y que tu regardes probablement. » Donc, ça, il doit y avoir une erreur parce que ça ressemble bien au chromosome Y. Et vous savez que le chromosome Y, c'est donc le Yanaka. Et donc, il a dit « Va regarder plutôt aussi chez les femmes qui ont cette maladie. » Effectivement, le fait de retrouver cette maladie, ce petit chromosome, chez les hommes aussi, chez les femmes aussi qui avaient donc cette maladie, a conduit à cette découverte majeure qui est donc le chromosome Philadelphie du nom effectivement de la ville où ça a été découvert. Et ensuite, Janet Rowley, en 1974, a mis en évidence que c'était une translocation entre deux chromosomes. Et puis, le gène anormal, qui est présent que dans les cellules leucémiques, a été cloné en 1984. Et ça a conduit donc à la découverte, à la mise en place de ce traitement par imatinib. Alors, quels sont les principes des thérapies ciblées? Alors, la protéine est présente uniquement dans la cellule anormale. Et dans la cellule normale, vous n'avez rien. Donc, ces inhibiteurs vont cibler ces cellules qui sont devenues quelque part dépendantes de la présence de ces oncogènes. Cela va entraîner la mort cellulaire de cette cellule, mais pas de la cellule normale. Donc, les effets secondaires sont réduits. Alors, l'efficacité de ce traitement a été testée donc, dans les modèles de souris. Donc, on a effectivement un modèle de souris où on peut générer une leucémie. Vous voyez ici donc, la rate de cette souris anormale, hein, donc, qui est très grosse. Si vous ne traitez pas, donc, après la génération de la leucémie, cette souris, donc, il y aura une rate de 724 mg. Si vous traitez par gavage, donc, vous traitez par gavage ces animaux, vous allez avoir donc une diminution de la taille de la rate et normalisation des globules blancs qui étaient 425 000 ici, vous devenez 14 000. Donc, grâce à ces types de technologies, on a pu mettre très rapidement donc, ce test, ce médicament en clinique. Et les premiers essais donc, étaient, je pense, époustouflants. Pourquoi époustouflants? Parce qu'en un temps record, il y a eu plus de 1 000 patients dans le monde qui ont pu être inclus dans cet essai. Et par rapport à un traitement classique, qui était des injections de chimiothérapie, donc vous voyez ici aracitine, et puis interféron, donc des traitements par voie, donc par injection, on a proposé donc à ce groupe de patients la prise de 4 comprimés par jour. Et au bout de 19 mois, donc les résultats étaient tout à fait clairs, donc là c'est un petit peu écrit en jargon, mais vous voyez ici la rémission cytogénétique complète, c'est-à-dire que 76% des patients avaient une rémission ici, contre 14% ici. Donc là, par rapport en plus à la technique de la médiatisation de ces traitements et la facilité d'administration, un certain nombre de patients étaient déjà passés de ce groupe à ce groupe-là. Mais en faisant donc une correction statistique de tout ça, bon là, c'était clair, comme on dit, il n'y avait pas photo, comme dirait mon fils. Et effectivement, l'imatinib, ce médicament, est devenu le traitement de première ligne de la LMC. Et là, je pense que c'est une des diapositives les plus impressionnantes en cancérologie. Je pense que ce serait fantastique si un jour, dans les gliomes, au glioblastome, au cancer du poumon, on peut avoir ce type de progrès. Voyez ici la survie des patients qui sont pris en charge dans les années 70, en vert. Vous voyez que la médiane de survie, la durée de vie médiane, la médiane de survie, c'est de 4 ans. Et au bout d'une dizaine d'années, vous n'avez quasiment plus personne en vie. Dans les années 80, il y a une amélioration qui continue dans les années 91-90, c'est effectivement l'effet de l'interféron. Et voyez, donc aujourd'hui, la survie de ces patients, nous sommes maintenant à 10 ans et la courbe de survie est quasiment identique, 90%. Et on estime aujourd'hui que quand vous avez cette maladie, quand vous êtes diagnostiqué, vous allez vivre 25 ans. Donc là, c'est quand même un progrès extrêmement important. Et vous voyez comment finalement on a pu aller vraiment de la découverte d'un chromosome jusqu'à l'heure actuelle. Mais le monde n'est pas parfait, donc les progrès sont nécessaires, et on s'est rendu compte que c'est un traitement extrêmement coûteux, hein, qui coûte environ 3 000 euros par mois, donc vous calculez le nombre d'années qu'il faut. Et on s'est rendu compte que chez certains patients donc, où on arrêtait ces traitements, les maladies revenaient très vite. Vous voyez qu'ici, donc, stop, donc 3 patients ici, stop, 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 et la maladie revient extrêmement vite. Et un essai français qui a été mené, donc qui a été publié très récemment, montre que dans environ 60% des cas, donc après l'arrêt du traitement, arrêt volontaire hein, dans le cadre de cet essai, 60% des patients vont rechuter. Certains ne vont pas rechuter, n'ont pas rechuté encore. C'est 24 mois, bon, c'est un peu plus long maintenant. Et ces patients, alors on ne sait pas s'ils sont guéris, mais ils sont, disons, sous surveillance. Alors on sait également que suivant la gravité, on a un score de gravité au diagnostic de cette maladie, suivant le score de gravité, on sait que vous allez rechuter ou pas. Effectivement, ce sont les patients
Ceux qui n'ont pas rechuté, ce sont les patients à faible risque au début, et ceux qui sont à haut risque, donc il faut continuer le traitement. Donc on est dans une situation de dilemme. Donc on a un traitement extrêmement efficace, mais quand on arrête, donc la leucémie revient. Donc du coup, on est schématiquement dans... on estime que vous êtes à 10 puissance 12 cellules au départ, diagnostic. Donc vous pouvez mesurer ce gène leucémique, c'est ce qu'on fait donc tous les jours. Donc Jean-Claude Chomel qui est présent ici fait ça dans notre équipe tous les jours chez les patients. On arrive à une situation de indétectabilité, donc on n'arrive plus à détecter le gène leucémique. Mais on sait que vous avez encore 1 million de cellules souches qui restent, en tout cas 1 million de cellules. Et c'est ce qu'on appelle la zone de résistance et c'est pour nous donc un sujet de recherche très important. Donc c'est ce qu'on fait. Pourquoi c'est important? Parce que si vous laissez ces cellules, elles vont suivre l'histoire de la maladie. Je vous avais montré au départ l'histoire de la maladie, c'est la fin, c'est une leucémie aiguë. Donc plus vous laissez ces cellules, plus vous allez avoir une instabilité génétique, notamment d'un certain nombre de mutations, par exemple, qui résistent cette fois-ci à tout traitement, et vous allez avoir donc une leucémie aiguë, cette fois-ci, avec une mutation difficile à traiter ou intraitable. Donc les questions qui nous intéressent actuellement dans ce domaine, donc c'est la persistance de ces cellules, comment les quantifier. On développe dans notre unité des nouveaux tests et voir effectivement si on peut utiliser ces tests pour arrêter. Donc il y a beaucoup de recherches actuellement, donc, compte tenu de l'intérêt majeur hein, de l'industrie pharmaceutique aussi pour ces thérapies. Donc je vous ai indiqué le coût, c'est, sur le plan médico-économique, c'est majeur. Donc rien qu'en France, on pense que avec un seul... de ces traitements, donc le budget effectivement c'est de l'ordre de 300-400 millions d'euros. Donc peut-on prédire les réponses et les résistances? Peut-on prédire les rechutes et arrêter le traitement en fonction de ça? Donc ce sont des tests actuellement donc, qu'on est en train de développer. Et puis de manière plus générale, plus on va avancer dans l'identification de ces cellules, on va essayer de développer des thérapies qui ciblent en fait la cellule souche en fonction de la cellule souche cible, disons. Il y a sûrement des leucémies des cellules souches, des leucémies des progéniteurs différenciés, et maintenant des techniques de biologie moléculaire, donc sont en cours, en fait, pour trouver des nouvelles cibles au niveau de ces thérapies, et pour, au niveau de ces cellules, et pour finalement améliorer l'ensemble des traitements de leucémie. Voilà, merci de votre attention. Voilà, on a maintenant alors des questions.
Alors, est-ce qu'il y aura des questions? Une petite question naïve, c'est pourquoi 3000 euros par jour? Par mois, c'est pour 120 cachets, c'est énorme, quoi.
Comment? Alors, bon, ce sont bien sûr les. Vous savez que tous ces médicaments sont sous brevet. Donc, et l'industrie pharmaceutique, effectivement, investit beaucoup avant de mettre en place un médicament. Et ils disent qu'effectivement, c'est le prix de ce médicament. Mais il y a, par exemple, un pays qui a décidé de passer outre ça, c'est l'Inde. Donc, l'Inde, vous savez qu'ils sont près d'un milliard. Et évidemment, il y a beaucoup de leucémie myéloïde chronique en Inde. Donc, ils ont décidé de fabriquer leur propre Glivec, leur propre médicament. Donc, il y a eu un procès de l'industrie pharmaceutique contre eux. L'industrie pharmaceutique a perdu le procès, mais on ne sait pas en fait si ce médicament indien est aussi efficace que le vrai. Bien sûr, ça c'est... Sinon c'est une molécule de synthèse, à mon avis, c'est pas... Ça ne doit pas être très très cher le synthétiser. Non, non, non. Peut-être au départ. Au départ, c'était très cher. Vous savez qu'on nous livrait au départ les médicaments quasiment en comptant parce que la synthèse était difficile. Maintenant, la synthèse est industrielle et c'est sûrement pas 3000 euros, mais bon, c'est comme ça, c'est l'industrie pharmaceutique.
Ah oui.
Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais sans l'industrie pharmaceutique, on ne pourrait pas faire aussi ces progrès. Voilà, donc il faut effectivement trouver un...
Vous parliez de quand la cellule elle respirait plus en hypoxie, elle, qu'est-ce qu'il y avait comme effet? J'ai déjà que.
Oui, alors c'est les cellules souches donc hématopoïétiques donc vivent en hypoxie et c'est pareil d'ailleurs pour les cellules souches embryonnaires. Elles aiment en fait être en hypoxie. C'est là où il y a le meilleur survie et d'auto-renouvellement. Donc on ne sait pas pourquoi.
C'est-à-dire qu'elles respirent pas, elles n'ont pas d'air. Hein. Hypoxie.
Disons, la concentration d'oxygène est faible hein, au niveau de la moelle osseuse. C'est vraiment c'est dans les profondeurs de la moelle osseuse. C'est peut-être pour ça que l'évolution les a fait comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait que, finalement, qu'on puisse... ce sont nos cellules les plus précieuses. Hein, parce qu'on estime, en tout cas, bon, c'est des estimations difficiles à faire, mais on estime qu'on vit quasiment, donc, bon, tout au long, disons, 70-80 ans, avec un capital de pas plus de 200 cellules. Et sont là, donc, c'est 200 clones. Il y en a qui passent en activité, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui recommencent. Si vous avez, par exemple, une situation de si vous avez une infection, si vous avez un abcès, si vous avez une péritonite, donc vous avez une augmentation de globules blancs, donc il y a une demande excessive de ces cellules, mm-hmm. Hop, elles se mettent en route. Donc après, elles se remettent en quiescence. Donc, c'est complètement régulé. Voilà.
Quand elles repoussent ces cellules, elles se différencient toutes seules?
Elles se différencient toutes seules, oui.
Ça se fait naturellement quoi.
Ça se fait naturellement.
Ah oui, d'accord.
Vous vous rendez même pas compte, vous avez fabriqué 8 milliards de cellules de globules rouges en une heure. C'est qui est extraordinaire.
Et quand le foie, on enlève une partie parce qu'il y a un cancer, ça repousse pas cancéreux quand on a enlevé toutes les cellules cancéreuses.
Ah non, 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 bien sûr. Ça repousse à partir des cellules normales. Alors là, c'est un petit peu différent. Il y a des gens qui pensent que c'est plutôt les cellules différenciées qui se multiplient, mais qui s'arrêtent juste au moment où vous avez reconstruit l'ensemble de l'organe. C'est aussi extraordinaire. Hein. On ne sait pas comment.
La mémoire de l'organe.
Voilà, peut-être. Ah ouais. Tout à fait.
C'est assez... C'est surprenant.
Non, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire, ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut vraiment les protéger quand on tue les mauvaises? Est-ce qu'on arrive toujours à protéger les autres cellules? Ils sont toujours, quand on fait de la chimio ou quand on détruit des mauvaises cellules?
Bah non.
Oui, la chimiothérapie, non. Mais,
pas toujours.
Pas toujours. Mais peut-être que justement, avec les thérapies ciblées qu'on a, effectivement, par exemple, vous perdez bien vos cheveux. Hein, quand on donne effectivement ce médicament très cher... On a des patients maintenant qui travaillent, qui vont en vacances, qui nous téléphonent de leurs vacances en disant « Est-ce que j'ai encore combien de cellules j'ai ?» Enfin, c'est devenu extraordinaire. Alors qu'avant, on avait des patients qui étaient sous traitement, mais avec 42 fièvres chez eux. Donc c'est vrai que c'est 3000 euros quelque part par mois. Mais au niveau de la société, vous avez gagné beaucoup en efficacité.
Enfin, c'est une minorité qui peut se soigner dans des conditions pareilles, c'est clair. Quoi.
Bah, pas en France.
Non, en France, tout le monde se soigne en France. Oui, bien sûr.
Ah, c'est remboursé, ce...
Oui. Ah oui, bien sûr.
Oui, oui. Ah, pardon.
Ah oui, oui, c'est complètement remboursé.
Oui, c'est pas remboursé.
Oui, c'est complètement remboursé.
Et je me disais, est-ce qu'on va pouvoir multiplier les bonnes cellules dans les démences, les maladies d'Alzheimer, tout ça?
C'est ton domaine.
Excusez-moi, mais j'ai fini avec... Mais c'était magnifique, votre exposé.
Ah, pour les maladies type Alzheimer ou autres, dans les démences, actuellement, on ne sait pas si ça va être... On n'a pas de recul sur ces cellules souches et leur utilité pour ces maladies. Autant pour des maladies qui concernent des petites zones du cerveau, peut-être qu'il y a un espoir. Mais quand il faut disséminer de manière large, comme le cas de la maladie d'Alzheimer, je ne sais pas si ce sera jouable.
On a dit qu'il y avait une nouvelle... On pouvait soigner là, quelque chose de nouveau avec du laser.
Pour l'Alzheimer?
Oui. La lumière, je ne sais pas quoi.
Ah, je ne sais pas, non. Je ne peux pas vous répondre.
Quelqu'un m'a dit ça. C'était une nouvelle chose. C'était comme des rayons lumineux, un genre de laser sur les cellules, et ça pouvait les régénérer. Non, mais c'est peut-être un essai. Hein. Bon, mais c'est tout alors.
C'est pas.
La maladie d'Alzheimer.
Oui.
Alors, j'ai bien conscience que je vous emmène sur une zone que vous ne pensiez pas aborder, mais est-ce que rapidement, pourriez nous expliquer pourquoi ça ne... Quelle est la différence d'action par rapport aux autres maladies? Est-ce qu'on pourrait envisager un traitement à base de cellules souches pour la maladie d'Alzheimer, je veux dire. Enfin, j'attends une réponse très, très globale. Je sais bien que vous ne pouvez pas entrer dans les détails.
Oui, enfin, oui, d'accord. Alors, je vais vous répondre. Donc, sur cette maladie-là, l'Alzheimer, si je prends vraiment celle-là, elle a plusieurs caractéristiques. Celle qu'on voit, hein, c'est-à-dire qu'il y a des pertes de mémoire progressives qui vont jusqu'à la démence. Le problème d'un point de vue maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Dans le cerveau, je dirais qu'il y a deux grandes choses qui se passent. Il y a des plaques, qu'on appelle ça des plaques, qui se déposent, c'est ce qu'on appelle des plaques amyloïdes. Donc ça, c'est une première chose qu'il a, qui apparemment a pour conséquence de provoquer un dysfonctionnement du cerveau. Et ces plaques se déposent sur tout le cerveau, enfin toute la partie en fait qui intervient dans la mémoire et l'apprentissage, qui est très très large. Et l'autre chose, c'est qu'on perd des neurones spécialisés, qui sont des neurones qui fabriquent une molécule qui est l'acétylcholine. Alors ces neurones spécialisés sont dans une structure particulière, mais ils vont innerver, ils vont aller se projeter dans tout le cerveau. Donc même si on imagine qu'on peut remplacer, on imagine qu'on pourrait aller greffer des cellules souches pour remplacer ces neurones-là perdus, je pense qu'il y a quand même resté un gros problème, c'est qu'il faut aller irriguer tout le cerveau. Moi, je vois mal une transplantation dans tout le cerveau. Enfin, je ne voudrais pas vous ouvrir toute la tête pour vous mettre des cellules souches dedans. C'est la première des choses. Et la deuxième, c'est qu'il faudra quand même se débarrasser de ces plaques si elles gênent le fonctionnement normal. Donc, je ne sais pas, peut-être que je suis très pessimiste. Pour une maladie telle que la maladie d'Alzheimer, je crains que ça soit compliqué d'utiliser des cellules souches. Il y a d'autres essais en cours sur cette maladie, qui sont des essais basés plutôt sur une logique d'anticorps, hein, d'immunothérapie, plutôt dans cette logique-là, où on a développé des sérums, enfin, comme on injecte des sérums à des patients, pour aller éradiquer ces plaques. Alors, ça avait marché sur la souris. Il y a eu un essai clinique qui s'est passé, je crois, aux États-Unis ou alors en Angleterre, j'hésite, entre les deux pays. Le souci, c'est qu'on avait injecté quelque chose qui était très, très proche de la souris, et là, il y a eu une patiente qui a eu une réaction au traitement, qui a eu un grave problème au cerveau, qui en est décédée. Donc cet essai a été arrêté. Et donc là, ils sont en train de chercher ce qu'on appelle l'immunothérapie passive, donc un autre type de médicament basé sur ces anticorps. Chez la souris, ça marche, mais nous ne sommes pas des souris. Donc je ne sais pas où ils en sont en termes d'essais cliniques. Je suppose qu'ils ont dû passer assez rapidement en essais cliniques. Mais c'est pas des... Enfin, je crois que l'idée d'utiliser des cellules souches pour l'Alzheimer me semble complexe. Non, je ne dis pas possible. Je n'en sais rien. Ça me paraît compliqué. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont être trouvées, qui vont dire, bah, si, finalement, ça marche. Donc, je n'en sais rien. En l'état actuel des connaissances, je crains que ça ne soit compliqué.
Par contre, peut-être que dans
20 ans, c'est votre problème.
Peut-être que dans 20 ou 30 ans, on aura identifié des mécanismes de déclenchement, justement, de la prolifération de ces cellules et de leur migration, et que peut-être qu'on pourra aider le patient à fournir d'autres. Au début de la maladie, on pourrait. C'est un peu. Enfin, je pense que tous les chercheurs aujourd'hui rêvent un peu de ce genre de système, mais pour l'instant, on en est vraiment très très loin.
On en est loin, je vous dis. Puis il y a une autre logique qui est enclenchée pour faire des traitements. Hein. Ils sont vraiment sur une autre logique pour trouver des nouveaux traitements. Donc, voilà, je ne sais pas.
Je voulais vous demander, est-ce qu'on observe chez l'animal ce genre de maladie, maladie d'Alzheimer, du vieillissement? Est-ce que c'est spécifique à l'homme ou est-ce que c'est pas lié à la vieillesse? Enfin,
est-ce que c'est spécifique à l'homme? Je ne pense pas que ce soit. Enfin, chez la souris, la maladie d'Alzheimer n'existe pas spontanément. Il faut l'induire.
Ah, il faut l'induire.
Chez certains singes, elle existe. Oui. Donc, chez certains primates, elle existe. Il y a une question de durée de vie aussi.
Voilà,
oui. Oui, de toute façon, chez l'être humain, en général, quand elle apparaît, plutôt vers 65-70 ans, mais il y a des cas rares,
oui,
très rares, où elle apparaît à 40 ans.
Hein, oui. C'est très rare.
Ah oui, je dis bien des très rares. C'est génétique, hein, dans ce cas-là.
Voilà. Donc, c'est quand même lié au vieillissement.
Ah, globalement, oui. Le premier risque d'avoir cette maladie, c'est de vieillir.
Donc, oui, on ne peut pas rêver de l'éternité, il ne faut pas trop.
Mais je ne sais pas si les gens rêvent d'éternité.
C'est un peu quand même. Hein. Parce que vouloir tout guérir à tout prix, être toujours jeune, toujours en forme, etc.
Je ne sais pas si, je sais pas si c'est comme ça. Enfin, je ne suis pas médecin, donc je demanderai la caution de mon voisin. Mais je pense que les médecins cherchent à faire en sorte que les gens vivent bien le temps qu'ils ont à vivre. Ce n'est pas une question d'éternité. Enfin, moi, je ne vois pas les choses comme ça.
Oui, mais mourir en jeune et en bonne santé, ça, je ne sais pas si c'est possible. Hein. Vouloir à tout prix... Bon, la leucémie, c'est autre chose. Mais là, Alzheimer, si vraiment... C'est du vieillissement de l'organe.
Oui, mais tout le monde ne finit pas avec cette maladie. Hein. Ah, oui. Il y en a qui vieillissent très bien, entre guillemets.
Oui.
Enfin, si.
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Je voulais revenir sur la leucémie.
Oui.
Je voulais poser la question, pourquoi vous n'avez pas parlé du nom de la LLC, la LE.
Ah oui, parce que c'était un choix. J'ai pas parlé de LLC,
c'est
qui
trop
est très
semblable.
C'est une maladie très fréquente, la LLC. Oui. Mais d'abord, on ne sait pas s'il y a une cellule souche existe dans la LLC. C'est une maladie très particulière de cellules terminales en fait. Hein. Ce sont des cellules qui sont des lymphocytes, hein, qui sont on sait effectivement ce qui se passe sur le plan moléculaire. Hein. Il y a un certain nombre de candidats, de gènes candidats, etc. Mais sur les cellules souches de LLC, on ne connaît quasiment rien. Donc, j'ai dit qu'il y avait des leucémies lymphoïdes, mais je n'ai pas pu aller plus loin parce que ça aurait été beaucoup plus difficile à traiter. Non, la LLC existe, je suis d'accord avec vous. Elle est très fréquente, hein.
Mais on fait quand même des greffes, puisqu'on en a fait une, donc à partir de cellules souches. Donc on les a trouvées.
Oui, bien sûr. Mais on n'a pas trouvé les cellules souches de LLC. On ne sait pas. On ne sait pas s'il y a des cellules souches de LLC. Parce que vous pouvez très bien avoir aussi des maladies où la cellule arrive donc à la différenciation terminale, et c'est là où il y a un phénomène de transformation. Du coup, c'est ces cellules-là qui vont s'accumuler. Au lieu de mourir, donc je vous ai dit qu'effectivement, il y avait une durée de vie normale dans l'ensemble de ces cellules. Donc, au lieu de mourir, elles vont s'accumuler. C'est ce qui se passe dans la LLC. Les cellules s'accumulent. Donc, vous commencez avec 10 000 blancs, 20 000 blancs, et puis vous allez finir avec 200 000. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez avoir une anémie, vous n'allez pas avoir forcément de baisse des plaquettes. Donc, c'est une autre maladie.
Moi, je voulais revenir sur les gliomes. Vous parliez du cas aux États-Unis où une personne avait reçu un médicament dans la cellule souche normale pour attaquer celle qui était malade. Pourquoi il n'y a qu'un seul cas,
pourquoi il n'y a qu'une patiente
étude, qu'une patiente.
Eh bien, parce que c'est une thérapie toute neuve sur un concept qui a à peine 5 ans. Et que pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est enrôlée, on appelle ça enrôlée, dans cet essai clinique. Donc après, il y en aura d'autres, mais voilà, ça avait fait... c'est le 11 novembre 2010, donc ça a fait même pas 3 mois, hein, c'est ça, que ça a commencé cet essai clinique. Alors pourquoi il n'y en a qu'une? Parce que c'est le temps des essais cliniques.
D'accord.
Ça met combien de temps un essai clinique?
Ah oui, un essai clinique comme ça, c'est
une dizaine d'années, je pense.
C'est un essai clinique de ciblage, en fait.
En plus, oui, c'est de ciblage, oui.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a sûrement le transfert de gènes.
Il y a un transfert de gènes qui est fait dans une cellule souche normale. Et ça, on le greffe à la patiente qui a un cancer.
Donc, ces cellules, en plus, sont cultivées dans un laboratoire de sécurité.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est des choses très lourdes. On ne peut pas faire ça chez... D'abord, il faut tester, au minimum, disons, une dizaine de patients. Et on fait aussi donc un certain nombre de... On fait ça de manière graduelle. On fait par exemple 3 patients. Si au bout de 3 patients, il n'y a pas d'effet indésirable grave, on continue. Si par exemple, par contre, les 3 patients sont morts, on ne continue pas. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a sûrement depuis le mois d'octobre...
C'est le mois de novembre, donc je pense que...
Donc il y a, pour l'instant, c'est le début, mais...
Non, parce qu'une seule personne, c'est vrai que c'est très ciblé, quoi. Au moins pour voir sur 2 ou 3 cas. D'accord.
Merci. Je suis d'accord. Oui, voilà, c'est comme ça.
D'accord.
Je peux rien.
Pas d'autres questions brûlantes? C'est bon. Si.
Vous avez dit qu'il y en a moins
Ah, les cellules. Ah oui, c'est aujourd'hui ça. Oui, c'est le bébé médicament. Oui. Ben, c'est vrai que là, c'est une première qui est. Mais c'est pas une première. C'est une première en France. Hein, mais c'est vrai que le son du cordon. Alors là, c'est quelque chose qui est un produit thérapeutique. Hein. C'est un produit thérapeutique. Mais comme vous savez, en France, on n'a pas le droit de les stocker pour soi. Donc il y a des banques du sang du cordon. Donc ce sont des dons qu'on fait. Donc la maman fait le don. À ce moment-là, c'est anonyme et en fonction de votre groupe, vous pouvez très bien effectivement en bénéficier. Surtout les enfants, maintenant les adultes aussi. Alors le cas particulier d'aujourd'hui, c'était traiter une maladie génétique en sélectionnant l'embryon. C'est ça qui était fait. Donc c'est voilà la partie en fait. La partie technologique, c'est ça qui est lourd, en fait. Le reste, c'est la greffe du sang du cordon, et c'est de la routine aujourd'hui. Mais là, c'est cette partie technologique qui a fait la médiatisation du bébé médicament. Pardon ? C'est le groupe HLA. Pas sanguin, mais HLA. Donc, un groupe tissulaire. Il faut qu'il soit donc compatible. Enfin, il y a un score de compatibilité 10 sur 10 ou 9 sur 10, 8 sur 10. Donc, si vous êtes 10 sur 10, c'est très bien. Donc, c'est comme ça qu'on sélectionne. Donc, il y a une banque internationale, un registre international. Oui, je vous en prie. Stupide,
mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi le problème, justement, d'avoir du sang de cordon ombilical pose problème. Et
pourquoi c'est pas autorisé en France ?
Oui, pourquoi ? Parce que je comprends, moi je peux comprendre qu'un embryon c'est autre chose, mais oui. C'est un individu, c'est un être humain, mais un cordon ombilical.
En fait, ce qui est clair, c'est que donc il y a effectivement, vous pouvez maintenant aller en Angleterre, aux États-Unis évidemment, en Belgique, etc., où il y a des structures qui vous proposent de conserver. Ils vous envoient des kits en maternité, donc c'est une espèce de poche en fait. Hein, donc vous collectez vos cellules, vous envoyez, ils vont vous facturer 2000 euros, je crois, et donc et après 100 euros par an pour collecter pendant 20 ans. C'est ça que vous posez.
Non.
Donc c'est pas autorisé en France. Non, mais je veux dire pourquoi c'est pas autorisé.
Oui, pourquoi son
propre. Oui, mais justement, c'est ça votre question.
Il me semble que ça doit être oui, très simple de pouvoir.
Non, en France, vous n'avez pas le droit.
Une banque de cordons, enfin de sang de cordon, enfin je sais pas.
Oui, mais ça existe, mais c'est une banque. C'est une banque de dons.
Pourquoi c'est interdit.
C'est interdit de stocker pour soi. C'est ça que vos questions.
Ah oui.
C'est un de stocker pour soi. C'est-à-dire que c'est pour votre enfant. En France, vous ne pouvez pas. Mais si vous allez dans d'autres pays, effectivement, il y a des. Vous pouvez très bien dire, bon, bah, pour mon enfant, si mon enfant un jour avait une leucémie, donc il pourrait en bénéficier, parce que ce serait ses propres cellules. Donc vous avez le droit de le faire ailleurs, mais pas en France. Alors la raison pour laquelle en France on n'a pas le droit, bon d'abord, je pense que c'est une. Parce que dans un système basé sur la solidarité. Donc on veut que toute la population bénéficie. Deuxièmement, personne au monde a montré que ces cellules, pouvaient servir à soi. Donc personne n'a montré aujourd'hui que si vous aviez une maladie quelconque, parce qu'on parle pas uniquement de les gens qui font le stockage actuellement, pour vous, ils ne parlent pas forcément de traitement de leucémie. Ils disent qu'à partir de ces cellules, on peut aussi faire du cœur, on peut aussi faire des cellules hépatiques, parce que ça existe, ça. Mais personnellement, on a montré que c'était faisable. Personnellement, on a montré que aujourd'hui, des cellules souches du sang du cordon stockées quelque part, au bout de 5 ans, ça a servi à faire du cœur. Et pour les leucémies, deuxième argument contre, c'est que très souvent, les leucémies de l'enfant apparaissent probablement in utero, c'est-à-dire à l'intérieur de quand vous êtes dans le ventre de votre maman. Donc, probablement, si vous l'utilisez pour vous, donc dans le sang de votre cordon, vous avez déjà des cellules leucémiques. Donc, le fait de le greffer à nouveau, ça vous donnerait une autogreffe de leucémie. Donc, ce n'est pas logique.
Excusez-moi, mais dans une banque à disposition pour...
Oui, mais ça existe. Mais ça existe. Bien sûr.
Et ça, c'est autorisé.
Oui, c'est autorisé, bien sûr.
Et est-ce qu'à partir de là, justement, alors, quel est le problème exactement ?
Non, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Donc, on peut récupérer ces cellules souches à partir de sang de cordon.
Oui. Oui.
Mais on les donne à tout le monde.
Voilà.
Vous les donnez dans une banque anonyme.
Où se trouve le problème éthique? Enfin,
Non, c'est pas ça.
Il y en a pas.
Le problème éthique, c'est les garder pour vous. C'est ça,
ah,
le
oui.
problème.
Ah oui, c'est ça. D'accord.
Vous pouvez pas dire, par exemple, moi, je veux donner les cellules du sang, de mon sang du cordon, donc pour mon enfant. Je veux que la sécurité sociale fasse le nécessaire, comme on fait pour le reste, pour les congeler, mais pour moi, pour mon enfant. Ça, vous pouvez pas. Voilà. Non, mais en plus, il n'y a pas de raison médicale pour le faire, comme je vous ai dit. Parce que si c'était pour une leucémie, les cellules leucémiques sont déjà là, sûrement. Donc, ce n'est pas la peine de les utiliser pour vous, pour votre enfant. Parce que si votre enfant a une leucémie, c'est que les cellules du cordon en avaient déjà. D'accord ? Et deuxièmement, utilisation à long terme pour faire du cœur, etc. Bon, ça, c'est un petit peu de l'utopie pour l'instant. Et personne n'a montré que c'était utile. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi quand même un aspect commercial là-dedans. Hein. Il faut... Comment ? Les cellules souches embryonnaires. Ah oui, mais ça, c'est bien sûr. C'est autre chose. Ça, c'est quelque chose de différent parce que ce sont des lignées. Ce sont des lignées qui sont... Donc, en fait, bon, il y en a actuellement à peu près 600 de lignées dans le monde. Hein. Ce sont des cellules qui poussent donc en culture. Effectivement, aux États-Unis, il y a deux essais cliniques qui ont commencé. Donc, mais ce sont des cellules allogéniques. C'est-à-dire que ce n'est pas des cellules à vous. Forcément, ça vient d'un embryon qui a été détruit. Et ces cellules ont un grand potentiel parce qu'elles peuvent tout faire. Hein. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire, du cerveau, elles peuvent faire des hépatocytes, donc le foie, elles peuvent tout faire. Et là, aux États-Unis, le premier malade qui a été injecté au mois de novembre aussi, décidément, c'est le mois... C'est effectivement un patient qui était donc paraplégique, et paralysé donc par... En fait, quadriplégique, je crois, paralysé par une coupure de la moelle épinière. Et on sait que chez le rat, si on injecte ces cellules, les rats donc, qui étaient paraplégiques commencent à marcher. Donc, basé sur ces essais, les gens ont dit, bon, de toute façon, on va essayer. Et puis, ça a été fait. Et ça a été fait par une compagnie. C'est une compagnie qui l'a fait. Donc, c'est vrai que si ça marche, s'il y a un miracle, à ce moment-là, je veux dire, un jour, ça va passer à la clinique parce que vous ne pouvez pas arrêter le progrès. Donc, compte tenu des accidents de moto qu'il y a en France, le nombre de paraplégiques, etc., c'est... C'est la médecine réparatrice, comment ? Non, non, en France, non, pas encore.
Merci. Je voudrais revenir sur les cellules souches et les gliomes. Tout à l'heure, vous avez expliqué que les cellules souches saines pouvaient s'attaquer aux cellules souches cancéreuses. Par quel mécanisme ça se fait et est-ce que d'autres cellules souches sont capables de le faire?
Alors, première question, quels sont les mécanismes? On n'en sait rien. Voilà. C'est la première des réponses. Ce n'est pas satisfaisant, mais c'est tout ce que je peux vous dire. On est en train de chercher à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. On ne sait pas aujourd'hui. Pourquoi on ne le sait pas? Parce que ça fait seulement 3-4 ans qu'on l'a découvert. Donc, bon, voilà. Ensuite, est-ce que d'autres cellules souches à part celles du cerveau sont capables d'aller vers les gliomes? Je ne pense pas que ça ait été testé. Voilà, c'est une recherche qui n'a pas encore été faite.
Mais est-ce que par exemple des cellules souches des muscles peuvent
oui,
s'attaquer?
Je pensais, oui, voilà. Mais je ne sais pas. Non, on ne sait pas.
Pas forcément du gliome, mais
à d'autres cancers.
Voilà, d'autres cancers.
Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si c'est le cas du sang, je ne pense pas. Ça a l'air assez particulier pour les cellules souches du cerveau. Okay. Ça a l'air, mais je ne suis pas au courant de tout.
Et ces cellules qui sont capables de migrer.
Elles vont migrer vers le gliome.
Il y a sûrement des molécules.
Il va y avoir des choses un peu particulières de ces cellules souches-là. Mais je ne peux pas tout vous dire, parce qu'on ne le sait pas.
Mais S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais remercier encore nos deux intervenants pour cette soirée. Et puis je vous donne rendez-vous donc le 15 mars prochain pour la troisième conférence donc associée à ce cycle de la recherche sur le cancer. Et on parlera plus particulièrement des nanotechnologies et le cancer. Et également, on aura deux autres intervenants, un de La Rochelle, un de Limoges, pour montrer que la recherche est régionale. Et donc, qui parleront notamment des produits de la mer donc, et des applications sur le cancer. Voilà. Donc rendez-vous au 15 mars, sinon avant, avec tout un choix de conférences. À bientôt, au revoir.